Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Geneviève Peterson est avec nous parce qu'elle sera avec vous à 13h. Pile poil. Vas-tu recevoir... qui tu reçois après-midi?
Lionel Carman pour parler de la DPJ. Oui, bon, oui, bon. Du rapport. On espère qu'il va y avoir des actions qui vont être prises.
Le SPVM t'a pas appelé? Hein,
non, pas encore.
Pour une entrevue?
Non. Pourquoi il m'appellerait?
Parce que ils ont le choix, ils ont Pierre Nantel, ils ont Richard, moi, toi, Mario, Vincent, Sophie, ils peuvent choisir.
Ils veulent pas te parler, c'est quoi qui se passe?
Je ne sais pas. On les a invités, Maude les a invités, puis ça a l'air qu'il est allé à Paul. Il est allé à Paul Arcand de titre.
Bon.
Que tu veux faire? Non, mais c'est, tu sais, là, je vais parler d'André Durocher, mais ouais. tu me parlais de la manifestation à côté de chez vous.
Ouais.
Une trentaine de constats. Pour 30 000 personnes.
Mais moi, c'est pas ça que j'avais compris. En tout cas,
les organisateurs ont rien reçu.
Ben, c'est ça. Moi, j'ai vu le premier ministre Legault dire, Benoît, qu'on allait mettre tout en œuvre pour distribuer des constats parce qu'évidemment, il y avait des manquements aux mesures sanitaires. Puis, je lisais ça, moi aussi, ce matin, avec un peu, je vais dire, circonspection, mettons.
Ah, c'est joli.
J'étais circonspect.
T'as été circonspect.
Oui, puis je me disais, écoute, tu sais, quand même, ces gens-là sont faciles à identifier. Il y a beaucoup de vidéos. Tu sais, Maxime Bernier...
Pas dur à trouver, hein?
C'est ça, hein? Non, bon, non, fait non. que...
Le vendeur de jolis gilets, puis tu vas trouver Maxime Bernier.
Exactement.
Retour sur la tragédie de Saint-Jean-Vianney, toi.
Écoute, j'étais tellement émue ce matin en regardant les articles sur la tragédie de Saint-Jean-Vianney. Évidemment, ça fait 50 ans, puis je pensais pas ça. C'est tellement un phénomène bizarre. Tu sais, les souvenirs qu'on t'impose quand t'es petit, là. Moi, j'ai l'impression quasiment de l'avoir vécu tellement au Saguenay. On a grandi avec le spectre de cette tragédie-là. Puis pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est oui, c'est le 50e anniversaire, triste anniversaire de cette tragédie-là. Mais le gouvernement du Québec va reconnaître la tragédie de Saint-Jean-Vianney comme un événement historique national. Donc ça, c'est quand même un message qui est clair. Puis, tu sais, la tragédie de Saint-Jean-Vianney, c'est tellement particulier. Tu sais, par ailleurs, que ça a eu lieu pendant une partie de hockey. Et ça a sauvé la vie de bien des gens. Parce que cette partie-là était tard. Il y avait des gens qui étaient encore réveillés, qui ne dormaient pas. Donc, qui ont pu entendre qu'est-ce qui était en train de se passer et qui ont pu se sauver avec leur famille. Il y en a qui ont été moins chanceux. Il y a eu des morts, évidemment. Puis, il y a une histoire tellement touchante. Une mère de famille, là, ça a touché tout le Québec à l'époque. Une mère de famille de 5 enfants sont décédés. Son mari s'en est toujours voulu parce qu'il était allé écouter la partie de hockey ailleurs. Dans une autre maison, il y avait la grippe. Puis, il voulait pas déranger sa famille grippée. Fait que, tu sais, au Saguenay, là, tout le monde a entendu parler de Saint-Jean-Vianney. Tout le monde a grandi en entendant parler de Saint-Jean-Vianney. Ça a marqué l'imaginaire. Moi, je me rappelle, Benoît, là, dans les années 80, quand on magasinait des maisons avec mes parents, posait beaucoup de questions sur les possibles glissements de terrain. Saint-Jean-Vianney, c'était devenu un lieu de pèlerinage. T'allais là, puis, tu sais, quand t'étais ado, là, t'allais voir ça. Il n'y a jamais rien qui a été construit par-dessus ça, là. On allait là comme un peu constater l'horreur, se recueillir, un peu filer la tragédie. Puis c'est devenu aussi un lieu où les gens, malheureusement, allaient faire le party. C'est devenu aussi un lieu où les personnes allaient pour avoir des relations sexuelles parce que c'était très reculé. Donc, surveillé par la police, ça fait des années par ailleurs qu'on essaie de mettre fin à tout ça. Mais vraiment, le village qui est fermé depuis a marqué vraiment beaucoup l'imaginaire saguenay parce que c'est de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui parce que ça me faisait penser. Au Saguenay, il y a une espèce d'imaginaire des catastrophes naturelles. C'est une région qui a été beaucoup marquée. On a eu le grand feu en 1878 qui a donné les bleuets, mettons, pour faire un shortcut. On a eu le tremblement de terre en 88. Moi, je l'ai vécu, ce tremblement de terre-là. Ma maison était construite sur un cran à l'époque. Mon père, je me rappellerai toute ma vie, Benoît, mon père était en train de changer un panneau d'armoire. Et il était monté dans un escabeau. Il a dit à ma mère, mettez-vous en dessous de la table. Parce qu'il sentait les vibrations. Et écoute, la porte patio faisait wobblait, comme on dit en bon saguenéen. Les gens étaient terrorisés tellement que juste après la secousse, le téléphone a sonné. C'était une dame. Elle faisait une erreur de numéro. Et elle a dit à ma mère, parlez-moi quand même. J'ai trop peur. Devant chez nous, je vois, c'était en terre le chemin. Je voyais la route ondulée. Donc, il y a eu ça. Il y a eu le déluge du Saguenay en 96. Puis, ça a donné lieu à toutes sortes de théories du complot assez intéressantes. Puis, je ne sais pas, on dirait que les régions, les villes où il y a une base militaire, que ce soit Québec ou le Saguenay, ça donne lieu à toutes sortes de lucubrations. Les gens pensent que l'armée joue avec la météo. Puis, c'est capoté parce que quand j'écris La déesse des mouches à feu, il y avait une scène, OK, sur le verglas. Donc, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus et je suis tombée sur des sites absolument... Tu sais, le rabbit hole du complot, ça date pas d'hier. Là. Mmh. Il y en a pour parler du déluge du Saguenay, de Saint-Jean-Vianney, de la crise du verglas, même à Montréal. Et note que Normand Lester, tu sais, qui s'intéresse beaucoup à ces théories-là, a écrit un roman. C'est un thriller politique, Verglas, OK?
Mmh.
Où il décrit un peu le phénomène suivant. Les savants américains qui feraient des expériences, qui mettraient au moins au point des armes climatologiques, OK? Mais ça, là, Benoît, c'est une pensée qui est ancrée dans la tête de bien des gens. Quand tu parles du déluge du Saguenay, de Saint-Jean-Vianney à du monde, puis bien souvent des vieilles personnes, ils disent « Oh oui, là, des années 50 au Saguenay, là, les Américains ont acheté une ferme à Métabetchouan, là, il y a des câbles, puis ils jouent avec le niveau du lac Saint-Jean. » Et c'est ça qui aurait donné dans leur tête, lui, à tout ça. Évidemment, c'est pas ça.
C'est-tu vrai?
Non, mais ce qui est vrai là-dedans,
ouais,
c'est que le niveau du lac Saint-Jean change. Au Saguenay, on a l'Alcan qui utilise de l'eau et qui font varier le niveau du lac. Il y a tout un système d'écluses parce que des usines, et c'est ça qui a causé le déluge du Saguenay. Il y a eu des trucs à Ville-de-la-Baie, des gens qui ont plus ou moins bien surveillé le barrage. Mais c'est quand même capoté qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que ces phénomènes-là sont dus à la manipulation humaine. Tu sais, les fameux chemtrails, toutes ces affaires-là, là, des gens sont convaincus. Donc voilà, j'avais bien envie de te parler de Saint-Jean-Vianney aujourd'hui. Quoi? Mais c'est vrai!
Ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant de voir une région comme ça
oui.
faire des liens entre des catastrophes naturelles.
C'est parce qu'il y en a eu beaucoup. Ben, à un moment donné, tu dis, OK, grand feu, tremblement de terre, déluge, Saint-Jean-Vianney.
Imagine la Californie.
Mais je le sais.
Tu sais, avec les...
On cherche des explications. Ouais, évidemment, je pense pas que ça soit l'armée américaine qui manipule la météo.
The Men in Black,
ben
la réalisation.
Tu sais, moi, j'avais un chalet sur la Zec Onatchoué quand j'étais petite et les pilotes de F-18 venaient faire leurs exercices au-dessus du lac chez nous, tellement bas qu'on pouvait les voir dans leur cockpit. Et les gens au chalet, les bonhommes, comme j'aimais les appeler, disaient, tu vois, quand les F-18 passent, là, tu vas voir tout de suite après, là, il se met à faire beau. Oui. Donc, j'ai grandi en tout cas, ça peut être fait de moi l'autrice que je suis aujourd'hui, mais j'aime ça, moi, ces histoires-là.
Ça explique des choses.
Non, mais c'est le folklore. C'est le folklore d'une région. Tu sais, il n'y a pas juste la chasse-galerie. Il y a toutes sortes d'histoires comme ça. Je trouve ça fascinant.
Lionel Carman, sur le rapport de Mme Laurent.
Oui, puis...
550 pages.
C'est fait scooper sur Facebook par le PM qui a fait cette annonce de ce comité qui va être mis sur pied pour s'assurer que les recommandations soient suivies. Toujours un peu sceptique, moi, quand il est question d'un comité pour évaluer les recommandations. Puis tu sais, je fais le parallèle avec le comité sur la violence conjugale, le comité transpartisan qui a remis son rapport en décembre, rebâtir la confiance. On a-tu assez parlé? Ben c'est ça, on parle. Là, on a injecté des...
190 recommandations.
Ben c'est ça. Puis là, ça sera le même genre de comité. Donc, on va attendre encore. Puis tu sais, la DPJ, quand même, c'est un gros paquebot, là. Moi, quand j'entends, puis c'est un peu ironique, là, quand j'entends les gens au gouvernement dire on va remettre l'enfant au centre des préoccupations de la DPJ, il y a une partie de moi qui se dit, ben coudonc, parce que la DPJ, ça s'appelle Direction de protection de la jeunesse, ça a été fondé. Comment ça qu'on a perdu l'enfant de vue à ce point-là? Là?
Non, mais il faut se souvenir, là, puis docteur Julien, je disais ça à Pierre hier, docteur Julien, là, lui, il s'est toujours battu pour la pédiatrie sociale. Mm-hmm. Mais là, tout à coup, là, on a l'impression que la DPJ a épousé cette façon de faire-là. C'est pas vrai, là, il y a 18, 19, 20 ans, là, ils étaient en conflit. Puis Gilles en parlera pas parce qu'il veut pas parler de ça, il veut parler de ce qui s'en vient, puis aider les enfants, il fait bien. Sauf qu'il y a eu un changement dans la mentalité de la DPJ de pas nécessairement toujours retirer les enfants, mais essayer d'aider les familles, aider les quartiers. Puis c'est ça l'approche de Gilles Julien. Mais là, on voit que la DPJ, tu disais que c'est un paquebot, il est où le sacramouille de capitaine?
Ben c'est ça, puis tu sais, de faire des allers-retours entre une famille biologique, une famille d'accueil. Hier, je parlais à la dame en charge, qui représente les familles d'accueil puis les ressources intermédiaires au Québec, puis c'est ça qu'elle me disait. Elle me disait, tu sais, à un moment donné, tu remplis des formulaires pour être famille d'accueil, puis là, t'es rendu famille d'accueil, t'as l'impression que t'es au service de la DPJ, puis que tu dois remplir, si on veut, les cases du formulaire, pas t'occuper de l'enfant, là, satisfaire à leurs exigences. Mmh. Et ça, c'est capoté. Quand tu dis qu'il y a des enfants qui retournent dans leur famille, Benoît, 5-6 fois, là, imagine, là, t'es là un an, tu t'adaptes, c'est déjà difficile. Là, on dit, OK, ta mère va mieux ou ton père va mieux, tes parents vont mieux, tu retournes. Là, tu restes là 6 mois, là, ça va pas bien encore, tu retournes. Ça, faut que ça arrête. Et c'est ça qui est au cœur du rapport.
Il faut aussi que les intervenantes soient capables de mener à terme des dossiers.
OK, t'as-tu vu le roulement? Moi, ça me fait capoter.
Le roulement de personnel est hallucinant.
Les deux premiers épisodes épisodes au cœur de la DPJ qui sont sur tout.tv. Je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas plus que deux par ailleurs. Dans le deuxième épisode, tu as une intervenante qui fait une intervention. Elle va voir une petite fille à son école et après, Benoît, j'étais traumatisée. Elle est dans sa voiture et elle pleure parce qu'elle ne sait pas si elle prend la bonne décision pour cet enfant-là.
Ah oui.
Moi, je trouve que ça, en soi, non, ça parle beaucoup.
C'est un job assez ouais. rough. Bon, ben écoute, on t'écoute à 13h. Lionel Carman sera là pour parler de ce rapport mené par Régine Laurent. 552 pages. On va commencer à lire ça en fin de semaine. Merci.
Prends-toi un crayon marqueur.
Oui.